L'évangile pour le couple. L'évangile pour le couple. Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Voilà, Maud, nous sommes en train de boucler cette série de 4 émissions sur la vie de l'Esprit-Saint en nos vies de couple. Et cette 4e émission, Maud, c'est sur l'Église domestique, qui est le don de l'Esprit-Saint pour nos vies conjugales et nos vies familiales.
Voilà, on va commencer par un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 16 qui va nous aider à partir et expliciter ce thème de l'Église domestique. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient aussi tous en nous. » Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il vous introduira dans la vérité tout entière.
Voilà un texte, je crois, c'est un des plus beaux textes de l'Évangile, les plus intenses. C'est vraiment la fondation de l'Église par la parole du Christ. Et nous voyons combien ces paroles sont des paroles d'une proximité avec l'expérience conjugale qui est vraiment impressionnante. Donc vous voyez comme la fondation de l'Église est finalement si proche de l'expérience conjugale. Et effectivement, qu'on peut développer après toute la théologie de l'Église et toute la théologie du mariage, non pas théologie comme une science, une doctrine froide, mais comme vraiment l'intelligence de la révélation, combien il y a une profonde similitude entre ces deux expériences. Vraiment, ce sont deux expériences très similaires où finalement, c'est le Christ qui instaure l'Église, c'est le Christ qui réinstaure le couple dans sa béatitude originelle, dans ce une seule chair, comme l'Église est un seul corps par le don du Christ et l'Esprit Saint. Eh ben, il en est de même pour le couple qui, de par son péché, cette réalisation de cette communion est impossible, mais par le salut du Christ et le don de l'Esprit Saint, cette une seule chair redevient possible. C'est par le concours de l'Esprit Saint que vraiment est rendue possible la vocation conjugale. Moi, tu voudrais nous rapporter justement le texte de Jean-Paul II sur ce côté incontournable, pourrait-on dire, du fruit du Christ pour que se réalise, du fruit du Christ et de l'Esprit-Saint, pour que se réalise cette unité d'une seule chair conjugale.
Bien sûr que le fruit, c'est l'amour. Voilà ce que dit Jean-Paul II. L'amour humain est-il envisageable sans l'époux qui le premier nous a aimés jusqu'à la fin ? C'est uniquement s'ils prennent part à l'amour du Christ et à ce grand mystère dont parle Paul que les époux peuvent s'aimer jusqu'à la fin. Sinon, cela constitue indubitablement pour eux un grave danger.
Un grave danger, voilà. Donc vraiment, Jean-Paul II insiste, c'est parce que le couple et les conjoints rendent cette intimité, cette alliance avec l'époux, que l'alliance pour 20, 30, 50 ans, 70 ans hein, maintenant aujourd'hui, pour les jeunes qui s'engagent sans doute, là, plusieurs seront sans doute centenaires, on nous dit que la moitié seront centenaires, effectivement, c'est quelque chose qui est invraisemblable si effectivement on n'est pas dans cette expérience, cet amour du Christ.
Voilà, et Jean-Paul II rajoute aussi, n'ayez pas peur des risques, car les forces divines sont beaucoup plus puissantes que vos difficultés. voilà, qui est un rempart efficace contre le nombre de risques que nous affrontons dans une vie conjugale au long des années, avec les aléas de la vie, et les aléas de l'évolution de l'un et de l'autre, et tout ce qui nous est donné de traverser ensemble. Voici que les forces divines, si nous savons aller les puiser, si nous savons demander au Christ et à l'Esprit-Saint d'intervenir dans nos vies, ces forces-là sont plus fortes encore que tout.
Voilà, et c'est là où nous avons à mieux saisir combien l'Esprit-Saint doit nous introduire dans le cœur du mystère conjugal, qui est globalement, pourrait-on dire, le même type de mystère que le mystère de l'Église, qui est épouse du Christ. Et ça, dans le fameux texte d'Éphésiens 5, au chapitre 36, où Paul, en rapportant le mystère d'une seule chair conjugale, à ce moment-là, prend du recul en rappelant justement tous les éléments fondateurs, la Genèse, etc., et qu'avec le Christ n'a pas aboli ses paroles, mais au contraire vient aider les hommes à les accomplir. Il prend du recul et il dit, ce mystère de l'homme et de la femme, de l'alliance de l'homme et de la femme, et de leur une seule chair, est de grande portée. Pas, il est important, il est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Souvent on dit, mais le modèle, l'amour du Christ pour l'Église, c'est le modèle de la vie conjugale. Oui, mais, oui, c'est vrai. Mais d'abord, les paroles de Paul disent, vous voulez comprendre le mystère du Christ et de l'Église ? Alors regardez le mystère conjugal. Parce que le mystère conjugal s'applique au Christ et à l'Église. Donc il y a une profonde articulation entre les deux.
Voilà, donc c'est pour ça aussi que toute l'Église a repris derrière Paul cette idée que nous sommes, par notre une seule chair, la manifestation de l'unité du Christ, et que donc nous sommes une petite Église qui va vivre, je dirais, avec toutes les composantes de l'Église, et à commencer par la tête qui est bien sûr le Christ.
Voilà, c'est vraiment ce mystère du mariage qui est vraiment d'une grande portée. Ça veut dire que dans tous les éléments de la révélation que nous apporte le Christ, ce qui est dit là par rapport au mariage est vraiment très important, souligne Paul. Et donc nous avons vraiment à souligner que l'expérience d'une seule chair que nous expérimentons en tant que couple, c'est profondément un mystère conjugal, et c'est aussi un mystère spirituel et un mystère chrétien. Effectivement, quand le Christ, par exemple, dit de ses apôtres qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, c'est une parole profondément nuptiale, conjugale. Donc, quand les époux expérimentent intensément cette expérience de leur unité, de leur amour, unis dans la foi au Christ, ils expérimentent vraiment cet amour de Jésus pour son Père. Ils sont au cœur du mystère chrétien. Ils sont dans ce qui est inscrit en eux depuis les origines, puisqu'on a bien vu, Maud, combien le couple est à l'image de Dieu, en tant que personne, mais aussi en tant que couple. Et donc, il est vraiment image de la Trinité elle-même.
Absolument. Et donc, en rentrant dans cette incarnation d'une seule chair, en fait, la petite Église a son corps qui est donc justement d'abord les époux, puis il va s'élargir aux membres que sont les enfants, et pour constituer une petite cellule de base de l'Église, si je puis dire, qui est la petite Église domestique, qui est notre appel conjugal, c'est-à-dire d'élargir la grâce de l'Église et l'amour qui se vit dans l'Église à l'intérieur de la famille.
C'est pour ça qu'avec parents et enfants, ils sont chacun membres des uns des autres. Et je reprends là la parole de Paul aux Romains, parlant du corps de l'Église. Et donc on se rend bien compte quand Paul décrit tout le corps de l'Église et les membres les uns des autres et la tête qui est le Christ, nous voyons combien la famille est aussi une petite Église. C'est pour ça que ça a repris par le Concile Vatican II pour parler d'ecclésiola, de petite Église, et que le mystère de l'Église, là encore, s'applique au mystère de la famille.
Voilà, toute la théologie de l'Église va s'appuyer, va éclairer, si je puis dire, ce qui se vit dans le mariage et dans la communion conjugale. Et de cette façon-là, on peut voir aussi comme c'est enrichissant de découvrir le mystère de l'Église pour comprendre le mystère de la famille. Les deux s'éclairent mutuellement. Et cette petite famille-là, elle va avoir beaucoup de règles spirituelles qu'on n'a pas trop l'habitude de défricher parce qu'on ne fait pas attention à la signification concrète de cet apport théologique, si je puis dire. Or, comme tu disais fort justement, Alex, la théologie n'est pas là pour nous sortir du réel, mais au contraire pour nous y replonger avec plénitude, mais avec un sens très fort. Et donc, en découvrant l'importance de cette théologie, nous découvrons aussi le fonctionnement même de notre petite Église domestique.
Voilà, et c'est pour cela, comme pour l'Église, dans la famille chrétienne ou habitée par le Christ, chacun des membres doit essayer de se conformer au mieux à ce Christ et vivre cette grâce pour trouver peu à peu pleinement sa place dans le corps en tant que membre. Et effectivement, le bras, la main n'a pas la même fonction que le foie, que l'œil, etc. De même dans une famille où chacun a son charisme. Et donc chacun doit faire fructifier les dons de l'Esprit-Saint et les charismes des uns des autres. Et c'est comme cela que le corps se forme.
Voilà, on peut aussi parler des ministères spécifiques de l'homme et de la femme en s'éclairant sur celui de Pierre et de Marie, par exemple. Donc, Pierre étant la tête de l'Église, il préside l'Église de la même façon que le père de famille préside la petite Église qu'il a entre ses mains.
Et on aime mieux le terme de présidence, comme le reprend l'Église, que celui de chef, qui souvent implique une certaine autorité, etc.
Dans sa compréhension, en tout cas. Voilà. Mais de même, Marie qui prend aussi, ce travail d'enfantement, à la fois d'enfantement du Christ, c'est aussi le travail de la mère de famille que de remplir ce charisme, d'enfanter à la fois et de conduire à l'accueil de la vie dans l'esprit, justement, les enfants qui lui sont confiés et qui sont confiés au couple.
Voilà, et c'est là où on voit, là encore, mais ça on l'a vu il y a quelques émissions, combien il y a des ministères bien spécifiques pour les hommes et les femmes, et notamment pour l'époux, l'épouse, même chez mes sons d'épaule, et c'est pas des cases étanches. Voilà, c'est merveilleux de pouvoir découvrir cette expérience ecclésiale inscrite au cœur de la famille, et de faire ainsi de nos familles, grâce au don du Christ et à l'Esprit-Saint répandu en nous, de faire de nos familles des petites églises à part entière. A tout de suite. Nous revoilà pour approfondir, aller un peu plus loin dans ce mystère ecclésial qui habite le cœur de la famille. Et pour cela, Maud, nous aimerions peut-être reprendre les textes un peu fondateurs de la communauté chrétienne, donc de la communauté ecclésiale, qui est dans Acte 2. Est-ce que tu voudrais nous le relire ?
Avec grand plaisir. Donc, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignit à la communauté ceux qui seraient sauvés.
Voilà, c'est là où on voit combien ce texte, c'est impressionnant en lisant ce texte, combien il est adapté à l'expérience conjugale et familiale. C'est vraiment une expérience familiale et conjugale.
Voilà, on a l'impression d'avoir un peu une sorte de description de la vie familiale. Donc,
voilà, ils avaient à leur domicile la fraction du pain, sanctification du quotidien. Voilà, c'est la maison qui est un lieu de célébration, de vie, de sanctification. C'est un lieu de partage, à la fois de prière, à la fois de vie, de repas. Joie et simplicité de cœur. Enfin, je veux dire, ils sont d'un seul cœur.
Voilà, ils mettent tout en commun, ils répartissent selon les besoins de chacun. Bon, c'est le propre même d'une vie conjugale où on partage les revenus, les ressources de la famille entre tous les membres et puis on arbitre selon les besoins des uns et des autres.
Alors certes, c'est un descriptif un peu allégorique et un peu idéalisé, on est bien d'accord. Mais en disant, on se reconnaît bien comme notre désir conjugal et familial. C'est vraiment, voilà, c'est ce à quoi on aspire. C'est inscrit, c'est pas quelque chose qui est des grandes falbalas, des choses qui sont inaccessibles. C'est vraiment un souhait, une aspiration, on pourrait dire un mot de presque universel.
Oui, universel, de vivre cette communion dans la famille, dans le couple, et puis cette communion qui est aussi ouverte, puisque si on reprend le texte d'Actes, le Seigneur adjoignait chaque jour des nouveaux membres à la communauté, c'est comme ça que chaque enfant, quand il s'annonce et qu'il vient élargir la communauté, où chaque personne accueillie trouve sa place à la table familiale, trouve sa place dans la famille, qui est ouverte, qui n'est pas refermée sur elle-même, de la même façon que l'Église est ouverte. Et qu'elle attend chacun, elle est prête à accueillir chacun. C'est vraiment, je dirais, une vision extraordinairement évangélique de la famille. Voilà, c'est voilà. Un peu notre modèle évangélique.
Mais on se rend bien compte combien ce modèle humainement est inaccessible. Mais que quand le Christ est accueilli, quand le Christ, l'amour du Christ est expérimenté par les parents et par les enfants, eh bien c'est vrai. Et on en témoigne dans combien de différentes réalités, eh bien cette parole des actes prend forme. Et effectivement, elle est fruit d'une immense joie, d'une immense allégresse, comme il est dit. Comme il est dit, où c'était vraiment, il est même dit dans Acte 4, que c'était pour tous un temps de grâce exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à la fois l'expérience d'une joie, d'une dilatation, d'une allégresse, mais aussi une identification que c'est un don de Dieu, que c'est un don, c'est une grâce de Dieu exceptionnelle. Mais c'est exceptionnel, mais à la fois c'est offert à tous les hommes, à la mesure où ils accueillent la grâce du Christ.
Voilà, alors donc cette petite église domestique, on l'a aussi appelée à cause du Christ, l'expérience du Nazareth, c'est-à-dire que nous avons à rentrer, nous, dans notre expérience du Nazareth conjugal, c'est-à-dire cette vie quotidienne qui est transformée progressivement par le Christ, par l'Esprit Saint et par l'Évangile, et qui va être déjà le lieu d'accueil et à la vie, le lieu du oui, de l'ouverture, et de la générosité des parents qui vont aller jusqu'à, mettre toute leur énergie, ou en tout cas une bonne partie de leur énergie, au service de la vie et de la croissance de la vie.
Voilà, et c'est là où Paul VI, déjà, parlait que les couples chrétiens, dans leur vocation, ont vraiment à construire à leur échelle la civilisation de l'amour. Voilà, c'est le texte des Actes qu'on a lu tout à l'heure. Et ben voilà, il faut le mettre en œuvre à sa petite échelle locale de sa propre maison pour construire le Nazareth. Le Nazareth conjugal.
Voilà, et c'est dans nos familles que nous allons commencer à poser les premiers jalons, si je puis dire, de cette civilisation de l'amour, de ce royaume que le Seigneur nous demande de faire advenir, en travaillant justement dans l'éducation et puis dans notre conversion personnelle pour faire advenir dans notre famille les valeurs, plus que les valeurs, je dirais la vie évangélique qui va être lieu d'évangélisation pour nos enfants et pour nous-mêmes, lieu de conversion, lieu d'éducation à la vraie vie de la sainteté.
Voilà, et Jean-Paul II souligne bien qu'avant d'être une action, la mission de la famille est d'abord une expérience. Et que sa mission, justement, va venir du témoignage, du rayonnement de vie, d'amour, de vie fraternelle, etc., de respect des différents membres de la famille. Et c'est cette expérience de vie qui va déjà rayonner. Elle est effectivement, comme on le verra dans d'autres émissions, il faut que ce témoignage soit accompagné de la parole. Mais c'est ce témoignage, ce rayonnement de vie qui justement répond au manque de joie et d'espérance de notre monde qui justement n'expérimente pas cette joie, toute simple, incarnée, exprimée par la communauté chrétienne.
Ce lieu, ce petit Nazareth, est aussi le lieu où l'on apprend à aimer, parce que l'amour s'apprend, les règles de l'amour s'apprend, les règles du pardon, c'est un lieu aussi de conversion, où on apprend à se convertir. Quel est le mécanisme de la conversion? Ce sont les parents qui commencent à enseigner ça à leurs enfants, d'abord en le vivant eux-mêmes, et ensuite en apprenant à leurs enfants à demander pardon, à reconnaître sa faute, à implorer la grâce de Dieu pour les aider à faire ces passages si douloureux de la conversion qu'on n'arrive pas toujours à faire. Donc c'est à la fois l'apprentissage de l'acte de volonté, du désir, et puis à la fois de l'accueil de la grâce. Voilà, un lieu de gratuité où on apprend à accueillir la grâce et on apprend à la demander ensemble.
Voilà, c'est pour cela que cette communauté familiale est vraiment la première, je dirais, cellule de la société. C'est pour ça qu'elle est la première cellule de la communauté chrétienne. Jean-Paul II dira « La famille est le grand mystère de Dieu, tel que le rapporte Saint Paul, comme église domestique, ainsi comme toute église particulière au sein de l'église universelle. L'église domestique est l'épouse du Christ, elle doit être bâtie autour du Christ, autour de cet amour du Christ, et en cela, elle va permettre à chacun de se construire et d'accueillir ses propres charismes. »
Voilà, et le synode de la parole de nos évêques qui se sont réunis à Lourdes a conclu aussi sur l'importance de cette proclamation de la parole à l'intérieur de la famille, parce que la parole de Dieu va irriguer la famille et lui donner tout son sens et tout son axe, si je peux dire, évangélique.
Voilà, et c'est pour ça que nous allons peut-être terminer pour cette parole du Christ à ses apôtres et qui prie également pour les familles qui accueillent le Christ. Je ne prie pas pour vous seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à vos paroles, croiront en moi, afin que tous soient un. Et c'est une manière, Maud, d'introduire ce qui va suivre dans les prochaines émissions, où nous allons avoir quasiment 18 émissions sur la vocation évangélisatrice du couple et de la famille. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, nous prions le Seigneur de bonté et d'amour, de venir vraiment faire de tous vos couples et de vos familles des petites églises remplies vraiment de sa grâce et de son amour.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit.